quittent le Limpopo et préfèrent partir en ville, à Johannesburg ou au Cap, et ils ne reviennent pas.
Séraphin Medran Tadi est pépiniériste au Congo-Brazzaville. Son exploitation, comme beaucoup d'autres, souffre de la sécheresse. Pour se protéger, c'est le système D et certains agriculteurs préfèrent même baisser les bras.
Il y a baisse de production parce que dès qu'il y a du soleil, on ne peut pas faire des pépinières. Et même lorsqu'on a planté, il y a trop de soleil, donc il faut faire des paillages. C'est de la paille que l'on met sous les plantes pour pouvoir atténuer les effets du soleil. Mais ça demande un grand travail pour les agriculteurs. Chez nous, au Congo, nous produisons du poivron, du chou. Nous avons la mangue, il y a l'orange, mais la production n'est pas aussi suffisante pour le pays parce qu'il n'y a pas assez d'agriculteurs au Congo. Ce métier est délaissé, ce métier n'a pas d'opportunité. Et donc il y a eu des actifs qui ont dû laisser pour aller travailler dans l'informel.
Dans le Sahel, le manque d'eau et l'ensablement des fleuves comme le Niger poussent les populations à migrer. Mamadou Fayinke, président du réseau des organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest.
Il y a certaines zones complètement c'est désert. Il n'y a pas de pluie, ils n'ont pas les moyens de creuser. Par exemple, dans le nord du Mali, vers le Niger, vers la Mauritanie aussi.
Et ils vont où les agriculteurs?
Ils se déplacent un peu vers le fleuve, soit le fleuve du Sénégal, soit le fleuve de la Gambie ou la Haute-Guinée, le Fouta Djallon. Il faut que nos États investissent sur la terre pour faire renourrir la terre. Il faut qu'on investisse dans l'eau, il faut des forages, il faut des systèmes de récupération d'eau, parce que des fois l'eau vient, ça tombe, ça va. Donc il faut faire des grands bassins pour récupérer l'eau.
D'après les Nations Unies, l'adaptation du continent africain au changement climatique coûterait 7 à 15 milliards de dollars par an jusqu'en 2020. D'ici 2040, cette somme pourrait doubler.
Un dossier signé Gaël Lalex, 19h, presque 12 minutes à RFI au Bourget. Quelques petits problèmes, vous l'avez compris, pour rejoindre Nathalie Amar. On retrouve en revanche, car il est bien là, Philippe Le Caplin pour la suite de nos programmes.
Absolument, fidèle au poste, avec tout d'abord, avant de pouvoir retourner éventuellement dans quelques minutes à la COP, nous allons nous intéresser une fois de plus à la Syrie. C'est l'un des aspects les plus terrifiants de la répression exercée par Bachar al-Assad sur sa propre population depuis 2011. Les disparition de dizaines de milliers de personnes détenues par les services de renseignement sans que leur famille puisse entrer en contact avec elles. Ce fut le cas durant 10 mois de Hussein Guerre, un blogueur militant d'une association de défense des droits de l'homme. Il a été libéré l'été dernier, il a pu fuir son pays et gagner l'Europe, et Daniel Valo l'a rencontré.
C'est le 16 février 2012 que son cauchemar a débuté. Ce jour-là, Hussein Guerre se trouve dans les locaux du Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression à Damas. Des agents en civil effectuent une descente et l'emmènent de force avec 14 autres personnes. Hussein Guerre est enfermé dans un centre de détention des services de renseignement. Pendant plusieurs mois, il sera régulièrement battu et victime de mauvais traitements.
One time when I asked for my medicine.
Un jour, j'ai réclamé des médicaments parce que j'ai des problèmes cardiaques. Ils m'ont battu jusqu'à ce que je m'évanouisse. Une autre forme de torture, c'était la privation de sommeil. Pendant 3 mois, ils nous empêchaient de dormir plus de 2 heures d'affilée par période de 48 heures. Mais durant ma détention, d'autres prisonniers étaient torturés de façon bien plus violente. Je pouvais les entendre crier de douleur. Nombre d'entre eux sont morts sous la torture et moi j'ai eu de la chance car je suis toujours en vie.
A lot of them were dead under torturing. Yeah, I'm alive.
Durant les 10 premiers mois de sa détention, Hussein Guerre reste totalement coupé du monde extérieur. Il ne peut recevoir aucune nouvelle de sa famille et celle-ci ne sait absolument pas où il se trouve, ce qui lui est reproché et ce qu'il risque.
It means an open wound. It is still bleeding.
C'est comme une blessure qui ne se referme jamais, parce que personne ne sait ce qui vous est arrivé. Je savais que ma famille ne savait pas où j'étais, si j'étais toujours en vie ou si j'étais mort. Vous savez que votre famille souffre de ne rien savoir, et ça, c'est une autre forme de torture. Ce qui était dur également, c'était d'entendre les bombardements à l'extérieur et de n'avoir aucune nouvelle de sa famille. Je ne savais pas ce qui avait pu arriver à mes parents, à ma femme, à mes enfants. Je me demandais constamment ce qui avait pu leur arriver. Quand vous êtes victime d'une disparition forcée, vous y pensez en permanence. Finalement, j'ai demandé un service à un détenu qui devait être libéré. Je lui ai donné le numéro de téléphone de ma femme et je lui ai demandé de dire que j'étais toujours en prison et que j'étais toujours en vie. C'est la seule information que ma famille a eue durant ces 10 mois.
Au bout de 10 mois, Hussein Guerre est transféré dans la prison d'Adra dans la banlieue de Damas. Sa famille est alors autorisée à lui rendre visite, mais la détention va se poursuivre durant 3 années. Un calvaire pour lui, pour sa femme et pour ses 2 fils, âgé de 4 et 2 ans au moment de son arrestation.
Mon fils aîné, Ward, aime dessiner. Et ce qu'il préfère dessiner, c'est sa propre famille. Mais au bout de quelques mois, il a arrêté de me dessiner. Et quand il dessinait la famille, il y avait sa mère, son frère, mais moi j'avais disparu. Et quand on lui demandait « Mais pourquoi ?», alors il répondait toujours « Il nous a quittés. Quand il reviendra, je le dessinerai à nouveau. »
En juin 2014, Hussein Greer est amnistié par le gouvernement syrien plus de 2 ans après son arrestation, mais il devra attendre encore 1 an avant d'être libéré et de pouvoir rejoindre sa famille en Europe. Selon Amnesty International, plus de 60 000 disparitions forcées ont été dénombrées en Syrie depuis 2011. Et l'on estime à plusieurs milliers le nombre de disparus qui sont morts en détention, de torture, de mauvais traitements ou d'exécutions extrajudiciaires.
Voilà, depuis 3 semaines maintenant, seuls les Syriens, Afghans et Irakiens peuvent passer la frontière gréco-macédonienne. Mercredi dernier, le gouvernement grec a vidé le camp d'Idonémie, situé sur les rails qui traversent à ce niveau-là. Les autres nationalités ont été ramenées en bus à Athènes. 2300 personnes au total, des Iraniens, des Marocains, des Algériens, des Bangladais ou encore des Pakistanais. Coincés en Grèce, ils deviennent des clients potentiels pour les passeurs. Écoutez ce reportage réalisé à la frontière justement de Charlotte Stevenard.
Quelques 300 personnes attendent de pouvoir traverser la frontière. De temps en temps, certains refranchissent le grillage dans l'autre sens. C'est ce qui est arrivé à Imad il y a quelques jours. Ce Marocain espérait entrer avec un faux, la copie du papier fourni aux Syriens lorsqu'ils arrivent sur les îles. Pour ça, il a payé 50 euros à Athènes.
Donc celui-là, c'est l'original ou le faux ?
C'est l'original. Ça, c'est le faux. Regarde, la différence entre l'original et le faux, c'est pas les informations. Les informations sont exactes. C'est comme l'original. Le tempo, regarde, le tempo, c'est la même tempo. Mais la différence qu'il y a, c'est la différence de la photo. C'est la photo qui est exacte. Tu n'as aucun problème.
Et il ne demande pas le passeport, il ne demande pas la carte d'identité.
Non, non. Tu le dis que j'ai perdu seulement.
Certains de ses amis ont réussi à passer, affirme-t-il. Les contrôles d'identité plus poussés sont réalisés lors de la délivrance des papiers sur les îles, mais depuis mercredi et l'évacuation du camp, la police grecque fait un deuxième contrôle dans les bus avant qu'ils n'arrivent à la frontière. Fessa, lui, a choisi une autre voie. Avec sa femme et une amie, ces 3 Marocains remplissent leur sac à dos en vitesse. Dans 1 heure, à 17h, ils vont essayer de contourner la barrière de 10 km de barbelés avec une quinzaine de personnes.
Je ne connais pas, mais on va à pied. Les amis, il m'a dit qu'il y a 7 jours qu'on va passer dans les montagnes jusqu'à Karawachi. Dans le jour, on va dormir, dans la nuit, passe.
Beaucoup échouent, comme Mohamed, un étudiant marocain en psychologie parti à pied, lui aussi, avec un GPS.
On a marché 22 heures, il y a de la police qui ont attrapé sur la forêt. On a beaucoup frappé, la police macédonienne.
En 3 semaines de fermeture de la frontière, Médecins sans frontières a recueilli une dizaine de témoignages similaires, des agressions par des personnes en uniforme ou non identifiées côté macédonien. Ce que les migrants appellent la mafia. Mais cela ne décourage pas ceux qui veulent partir. Ils font alors appel aux passeurs. Selon Mohamed, pour arriver en Croatie dans une camionnette, il demande 700 à 800 euros. Fessa, lui, a choisi de traverser caché dans la cale d'un bateau jusqu'en Italie pour 800 euros. Charlotte Stevenard, Athènes, RFI.
Vous écoutez RFI, il est maintenant 19h, passé de 19 minutes.
Paris, 89 FM.
Au Bourget également, où se termine la COP 21, nous sommes en mesure de retrouver Nathalie Amar en ligne du Bourget.
Eh oui, Philippe, reprise de cette édition spéciale au Bourget où, bien pour tout vous dire, nous avons été victimes d'une coupure de courant. Alors tout ça est en train d'être réparé sous nos yeux. Ça va revenir, mais déjà par la magie de la technique, on peut être avec vous. On attend toujours au Bourget le coup de marteau final, la conclusion de 12 jours et de combien d'années de travail pour un premier accord universel sur le climat. Le texte est là. 11 pages, non 12 pages plus exactement, 29 articles. Quels engagements, quels changements concrets? On va en parler jusqu'à 20h avec nos invités. Tossi Panou-Panou, bonsoir. Négociateur donc pour la RDC dans cette COP21. Céline Rammstein, chef de projet COP21 à l'IDRI, Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Anne-Cécile Bras et Pierre Radan sont également à mes côtés, bien évidemment. Alors Anne-Cécile, c'est vers vous que je me tourne en premier. Vous étiez il y a quelques minutes dans la salle où sont réunies les délégations. Émotion, embrassade, accolade. On a vu le secrétaire d'État américain John Kerry donner l'accolade aux représentants chinois. On pensait qu'on était vraiment à deux doigts de l'adoption de cet accord sur le climat. Et puis, la tribune s'est à nouveau vidée. Que se passe-t-il, Anne-Cécile?
Bah écoutez, c'est pas très évident parce que vous savez que comme toutes ces négociations, tout se passe un peu dans le secret des salles. Ce qu'on peut juste dire, c'est que là, Laurent Fabius a redémarré, donc la tribune est lancée, les pays commencent à s'exprimer, il y a des applaudissements. Je peux pas vous parler tout en écoutant ce qui se passe dans la salle, c'est assez frustrant, je ne vous le cache pas. Mais donc là, Laurent Fabius en fait a ouvert ce qu'on appelle le comité de Paris pour savoir quels sont les avis des différents pays sur ce nouveau texte. Et puis, je pense que plusieurs pays vont s'exprimer. Il a donné la parole à la Colombie à l'instant. Là, apparemment, c'est un autre délégué qui va prendre la parole. Alors, il faut attendre de voir le petit carton qu'il y a devant la personne. Et voilà, là, pour l'instant, les pays vont petit à petit donner leur avis sur ce texte.
Alors on va peut-être demander immédiatement à notre invité, hein, Tossi Panou-Panou, qui a vécu vraiment la négociation de l'intérieur au nom de la RDC. Comment se sont déroulées ces dernières heures, Tossi?
Je pense que la majeure partie des pays ont estimé qu'il fallait soutenir la France, s'associer à l'accord, parce que l'accord représente un paquet qui représente un équilibre savamment obtenu. Et en fait, je pense que ce paquet ne peut pas être réouvert de peur de voir l'accord complètement se détricoter. En tant que pays africain, bien entendu, nous ne sommes pas contents d'avoir vu la mention spéciale sur les pays africains être retirée. En ce qui concerne par exemple le soutien ou les circonstances particulières des petits États insulaires en développement, des PMA et des pays africains. Donc cette mention a été retirée. En tant que pays africain, ça ne nous a pas beaucoup plu. Mais nous estimons que l'accord quand même ouvre la porte à beaucoup de bonnes choses. Le financement qui fait partie d'une décision qui accompagne l'accord rappelle quand même les 100 milliards de dollars, en estimant que ces 100 milliards de dollars représentent un plancher dans la période post-2020 et qu'il y aura une possibilité en 2025 de réévaluer les besoins pour le financement. L'accord tient également compte de l'adaptation, puisque les pays en développement sont éligibles de recevoir un soutien par rapport à cela. Et en tant que pays africain, pays peu émetteur en général, l'adaptation étant notre priorité des priorités, savoir que des dispositions financières permettront de répondre à certains de nos besoins et que l'adaptation est également prise en compte, nous rassérène pour adopter cet accord et voir comment pouvoir, dans les années qui viennent, rehausser le niveau d'ambition qui n'est pas forcément au rendez-vous à ce stade.
Céline Rammstein, chef de projet donc COP21 à l'IDRI, vous êtes vous aussi rassérénée par le contenu de cet accord, ou pour vous il y a encore des points d'incertitude ce soir?
Alors, je crois que, bon, à l'heure où on parle, il y avait encore quelques points, quelques derniers points qui ont mérité quelques dernières, je dirais, précisions ou discussions à très haut niveau, et c'est pour ça qu'on est un petit peu en retard. On en saura plus par la suite, évidemment, sur ce qui a vraiment décalé l'adoption de l'accord qu'on espère imminente, mais on voit encore à l'écran que ça discute encore beaucoup dans la salle. Sur le fond des choses, je crois que Tossi l'a très bien dit, cet accord, c'est le fruit d'un équilibre assez savamment orchestré, assez difficile, entre des principes d'ambition, des principes de mécanismes de solidarité pour aider les pays les plus faibles à faire face au risque du réchauffement climatique et à engager cette transition. Et je crois qu'on peut quand même souligner ce qui semble être quand même un accord historique dans lequel, pour la première fois, on s'engage l'ensemble des pays sur des cycles réguliers pour revoir l'ambition à la hausse sur un cycle de 5 ans. Donc on va se reparler régulièrement, on va faire ce qu'on appelle un global stock take, un moment où on regarde où en est le niveau d'ambition collectif. Donc toutes ces choses sont nouvelles, c'est la première fois qu'on y arrive, et ça en soi c'est quand même très encourageant.
Pierre Radan, je me retourne vers vous à présent. Objectif ambitieux en termes de limitation de la hausse des températures. Hein, on l'a dit, ce plafond de 2 degrés, mais quand même cet objectif final d'arriver à limiter à 1,5 degré. L'ambition est grande. Est-ce que les moyens sont là derrière, d'après vous ?
Écoutez, on est forcément sur un processus progressif. Il faut que pour la première fois, l'ensemble des pays se mettent à l'action, que derrière les acteurs économiques comprennent que l'ensemble des pays du monde s'engagent vers une nouvelle voie de développement. Donc ça va développer des filières. Il va falloir que les acteurs bancaires se mobilisent et donc qu'il y ait sur l'argent public qui est mobilisé, qui est probablement au jour d'aujourd'hui insuffisant, mais qui a un effet de levier et que l'humanité s'oriente sur un grand parcours. Ce qui était très clair, pas seulement dans le texte, mais dans les discours de ce matin. Les discours de ce matin ont très fortement inscrit l'idée qu'on est dans une mutation aujourd'hui. Il y aura l'avant Paris et il y aura l'après Paris. Et le fait que l'ensemble des pays partent dans une direction commune, c'est quelque chose non seulement d'historique, ça c'est, si vous voulez, c'est des mots qu'on a pour nous-mêmes, c'est surtout quelque chose qui va changer les activités économiques, la manière dont les technologies se diffusent, donc c'est ça qui va faire la concrétisation des choses.
Mais Pierre, justement, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de savoir à l'autre bout du monde, concrètement, qu'est-ce que cet accord de Paris va changer pour eux ? Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ce soir ? Est-ce qu'il y a vraiment du concret derrière ?
Écoutez, vous avez eu dans ces 15 jours non seulement le processus des États, mais vous avez eu les 1000 maires donc qui étaient réunis à la ville de Paris. Vous avez des entreprises de tous les secteurs, de toute taille, de tous les pays qui s'engagent. Donc c'est un mouvement pour l'humanité tout entière qui est en train de se faire. Alors apparemment là les choses sont en train de changer. Excusez-moi.
Ben oui, en effet, là, on est en train d'assister à tout le monde qui applaudit en plénière. L'accord vient d'être adopté, l'accord de Paris est adopté, donc ça y est. Pierre Radan, vous qui suivez ces négociations depuis plusieurs années, ça doit être un grand moment d'émotion pour vous.
Oui, parce qu'il y a eu deux périodes. Il y a eu la période de lancement conférence de Rio, protocole de Kyoto pour renforcer les choses, et puis ensuite à partir de 2001 jusqu'à la fin des années 2000, une période d'arrêt. Et là, ça y est, on part maintenant sur une nouvelle impulsion.
Alors effectivement, là dans la salle où se tient la séance plénière, les appareils photo crépitent, on s'embrasse, on se donne de grands accolades. Il y a effectivement manifestement une grande émotion alors que cet accord vient d'être adopté. Anne-Cécile, Tosim Panou, une réaction peut-être. Alors on est en train de découvrir avec vous ces images là de la salle plénière. Tosim.
Oui, moment historique, donc moment où on maintient le processus multilatéral à flot, parce que nous, en tant que petit État en développement, pardon, en tant que État africain, nous voulons que le multilatéralisme puisse continuer à être le forum où nous venons pour négocier ces questions liées à la gouvernance internationale sur le climat, simplement parce que c'est à cet endroit qu'on peut trouver les solutions qui soient les plus idoines pour régler ce problème qui crée un surcoût à notre développement. Donc, accord historique, accord, je pense, qui ouvre la voie vers plus d'ambition, accord qui tient compte des circonstances de plusieurs pays en développement. Tout à l'heure, je pense que Monsieur Fabius a parlé du fait que les pays d'Amérique latine, par exemple, trouveraient la problématique des forêts comme étant une question qui est traitée dans l'accord. Les petits États insulaires en développement des Caraïbes ou du Pacifique trouveraient également la question des pertes et dommages qui trouvent une solution dans cet accord. Les pays africains trouvent un appui financier et technologique dans cet accord. Donc je pense que c'est vraiment un accord qui ne fait pas la part belle à tel ou tel groupe de pays, mais qui représente vraiment une solution globale pour les différents pays donc, qui sont signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Merci Tosi Panupanu pour ce premier commentaire. Donc après l'adoption de l'accord de Paris, et alors que Laurent Fabius continue d'être applaudi hein, à la tribune de la séance plénière, Anne-Cécile,
le rôle de la France et de la diplomatie française, sans vouloir faire du chauvinisme, a été quand même, par je crois de nombreux pays, souligné ici comme étant vraiment constructif.
Absolument exemplaire, constructif, un modèle à suivre qui fera peut-être qui sera repris dans des livres d'histoire sur la diplomatie multilatérale. Disons que le processus à tout moment était ouvert, transparent, inclusif. Quelquefois on a l'impression que ça n'avançait pas, c'était des petits pas de bébé, mais ça avançait quand même, et surtout aucune surprise. Il y a des processus qui, par le passé, malheureusement, ont abouti à des surprises de dernière minute, et la présidence française était soucieuse de s'assurer qu'il n'y aurait jamais aucune surprise. Et je crois que ça a créé une dynamique, une confiance qui a fait que les pays étaient désireux de s'engager, étaient désireux de discuter, de chercher des solutions. Et vraiment, je pense que la France, le président de la COP, Monsieur Fabius, a vraiment fait preuve de beaucoup de doigté, et son expérience dans la gestion de beaucoup d'autres processus multilatéraux, on se rappelle par exemple du dossier iranien et tout ça, a vraiment payé. Et je pense que tout le monde, les 195 pays plus l'Union européenne, lui doivent une fière chandelle.
Tosim Panupanu qui a donc négocié cet accord au nom de la RDC. On va se rendre dans quelques instants à Kinshasa pour voir comment cet accord est perçu là-bas. On va retrouver notre correspondante. Je voudrais simplement un mot de commentaire tout d'abord d'Annabella Rosenberg. On vous a pas entendu, responsable climat à la Confédération syndicale internationale. Est-ce que vous partagez la satisfaction manifeste des participants à cette COP?
Bon, je pense que de notre côté, on est un peu plus mitigé sur l'enthousiasme général. il est évident que les États se sont accordés sur un objectif qui est très important, les 2 degrés, les 1,5, mais à notre avis, ils ne se sont pas vraiment donné les mécanismes pour s'assurer que ces objectifs vont être quand même réalisés. On manque cruellement de cet objectif de financement dans l'accord. On manque aussi d'une révision État par État des contributions nationales, et à notre avis aussi sur les deux volets droits. On a vu quand même les questions liées aux droits de l'homme, à la transition pour les travailleurs reléguées au préambule. Donc voilà, c'est un accord qui signale certes un engagement des États sur la cause climat, mais encore une certaine rhétorique entre ce qu'on est prêt à dire et ce qu'on est prêt à adopter dans un accord contraignant.
Donc pour vous, ça n'est qu'un début en quelque sorte. On va retrouver Valérie Masson-Delmotte. Bonsoir Valérie Masson-Delmotte. Climatologue, vice-présidente du groupe 1 du GIEC, ce fameux groupe d'experts sur le climat qui a alerté si souvent sur les dangers qu'on courait à laisser filer, si je peux dire, les températures. Que pensez-vous de l'accord qui a été conclu ce soir à Paris, cette limite de 2 degrés en s'efforçant d'atteindre quand même les 1,5 degré de réchauffement?
Ben moi, je voudrais dire que c'est un accord qui est lucide, puisqu'il revoit à la hausse l'ambition par rapport aux objectifs de long terme. Donc il y a une prise de conscience par rapport à la vulnérabilité. Et puis en même temps, il y a aussi intégré dans cet accord le constat que les engagements qui sont sur la table aujourd'hui à horizon 2025-2030 ne sont pas cohérents avec ces objectifs de long terme, et donc des mécanismes de révision, un état des lieux en 2018... un rendez-vous pour faire le point en 2023 et ensuite tous les 5 ans. Et donc mon point de vue de scientifique, c'est que bien sûr, la partie la plus contraignante de l'accord, elle vient dans le fait d'accepter d'être transparent sur le bilan, sur les émissions de chaque pays, sur la transparence des méthodologies d'évaluation. Et puis je note aussi que l'accord de Paris invite le GIEC à produire un rapport spécial en 2018 sur les impacts d'un réchauffement d'un degré et demi, et sur les trajectoires permettant de le tenir. Et donc on voit que le dialogue entre la communauté scientifique dans son ensemble, hein, c'est pas uniquement le GIEC, et puis le plus haut niveau politique, ce dialogue fonctionne, et puis il devrait se renforcer.
Donc ce qui est important pour vous, c'est qu'on met en place des mécanismes de contrôle et de révision périodique de ce qui a été conclu.
surtout des mécanismes de transparence. Je pense que le plus important, c'est la lucidité sur où on en est par rapport aux trajectoires permettant à long terme de maîtriser l'évolution du climat.
Justement, Valérie Masson-Delmotte, on a beaucoup discuté durant cette quinzaine de cette ambition. Est-ce que ça vous semble quand même réaliste de mettre 1,5 degré en objectif alors qu'on est presque déjà à 1 degré? Est-ce que c'est pas plus politique que réaliste?
Je pense qu'il faut vraiment faire le point sur les connaissances, sur les options qui sont là. Il y a le dioxyde de carbone, il y a aussi les autres gaz à effet de serre. Dans tous les scénarios qui permettent de maîtriser le réchauffement climatique, il y a aussi l'idée de capter du CO2 par des techniques industrielles ou de la gestion des sols et des forêts. Et je pense qu'il est très important de faire le point par rapport à l'état des connaissances. Et probablement ce que le GIEC devra faire à horizon 2018 en mobilisant toutes les connaissances les plus récentes sur ces questions.
Pierre Radan.
Oui, si vous voulez, il faut qu'on fasse très très attention dans l'événement qu'on a aujourd'hui, de ne pas le regarder d'une façon statique. Si justement il y a cette question de transparence, cette question de comparabilité, de chiffrage des actions, c'est pour se mettre dans un processus progressif. On voit bien que avec la totalité des pays de la planète, avec des écarts de développement aujourd'hui qui sont considérables, donc il va falloir qu'on organise une progression régulière. Et donc cette question de la revue tous les 5 ans, qui peut nous emmener jusqu'en 2050. Vous voyez que c'est, encore une fois, c'est une espèce d'escalier que l'humanité va monter, et cet escalier, plus elle s'engage, plus elle est transparente, plus elle met des moyens communs d'action, plus elle associe les secteurs industriels et les secteurs financiers, plus l'humanité va pouvoir progresser. En fait, c'est la dynamique de l'accord qui est importante, et beaucoup plus que le point de départ d'aujourd'hui.
Et est-ce qu'on peut dire ce soir, Pierre, que cet accord est en fait sous le contrôle et un peu entre les mains des opinions publiques, des organisations de la société civile?
Bien sûr, parce que c'est la spécificité de cette négociation internationale. Bien sûr, c'est les États qui négocient, mais vous savez qu'on était quand même 45 000 ici au Bourget, dont d'ailleurs plus de 5 000 journalistes, avec les acteurs scientifiques, l'ensemble des sociétés civiles, des ONG. C'est non seulement les États, les 195 pays de la planète qui se mettent en mouvement, mais c'est l'ensemble des acteurs de la société qui se mettent en mouvement, et on a autour de la table ONG, responsables syndicaux, etc. Donc c'est tout ça qui est en route.
Anne-Cécile. Oui, juste pour dire que je pense que RFI a contribué à augmenter le nombre de journalistes à la COP21, parce qu'ici on a quand même été une ruche incroyable, on a été une dizaine de journalistes au moins tous les jours, sans compter tout le personnel technique. Ça a été quand même une grosse mobilisation aussi de la part de notre média.
Et sans compter ceux qui sont également au téléphone, Sonia Rollet à Kinshasa, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends, oui.
Donc vous avez suivi, j'imagine, le début de cette émission. Comment cette COP est-elle suivie chez vous, en République démocratique du Congo? Et est-ce que cette mobilisation de la société civile dont on parlait à l'instant avec Pierre Radan, vous la ressentez?
Alors, il y a eu, c'est vrai, quelques articles dans la presse locale sur les enjeux pour le Congo, deuxième forêt équatoriale après l'Amazonie, sur le fait que la RDC ne signerait peut-être pas cet accord sans financement adéquat. Il y a eu aussi des forums de la société civile, notamment au Sud Kivu, où des activistes avaient appelé les participants de la COP à parvenir à un accord ambitieux, se disant victime du changement climatique. Il y a aussi eu une marche organisée à Kinshasa avec pour mot d'ordre « Je change ». Alors c'est vrai qu'on en parlait aussi dans les universités, comme l'université protestante de la capitale congolaise. On en parlait surtout pour dire que c'était un problème entre grandes puissances qui devraient là aussi payer pour assurer la conservation de la forêt congolaise. Mais notamment à Kinshasa, la capitale, on était plus préoccupé par des problèmes environnementaux immédiats. Des habitants continuent d'évoquer avec inquiétude le problème de ramassage des déchets après le désengagement de l'Union européenne en septembre. Et on a vu au fil des mois de véritables décharges se former, y compris dans le centre-ville. Problème de ressources, disait le gouvernement. Alors si le ramassage a repris avec un coup de pouce du gouvernement central, on parle d'imposer une nouvelle taxe. Il y a aussi ces inondations monstres à Kinshasa. Il y a eu 31 morts en 3 semaines. C'est ce qu'ont annoncé les autorités cette semaine. Les 3/4 de la ville n'ont quasiment jamais d'eau à cause d'un captage endommagé. Des quartiers entiers sont sous les eaux plusieurs fois par semaine. Et à Kinshasa, c'est vrai que l'ambiance, c'était surtout qu'on voulait savoir ce que cet accord changerait concrètement sur le quotidien des Congolais.
Sonia Rollet, avec nous en direct de Kinshasa. Tosim Panou, comment réagissez-vous à ce que vous venez d'entendre, vous qui avez négocié et porté cet accord au nom de la RDC? Là, on se retrouve effectivement tout d'un coup face à des problèmes très très concrets et on est bien loin des salons du Bourget.
Oui, c'est vrai. Je pense que ce que votre correspondante a souligné, en fait, nous montre bien qu'il est difficile de séparer le problème du développement à celui du changement climatique. Je pense que les deux vont ensemble, vont de pair. Et enfin, lorsqu'on s'engage dans cette négociation, nous, en tant qu'Africains, nous sommes toujours un peu émotionnels, c'est vrai, parce que bon, on n'a pas vraiment contribué à créer ce problème, mais on s'arme de deux outils qui sont objectifs, la règle de droit, hein, ce que nous dit la Convention et les différentes décisions des COP, et ce que la science nous dit, le GIEC. Et donc, effectivement, la RDC est confrontée à certains problèmes, mais il faut qu'on trouve en fait les moyens de changer nos modes de production, nos modes de consommation. Et dans certains pays, la gestion des déchets représente un créneau extrêmement lucratif. Il faut donc qu'on puisse mieux planifier les choses, mieux s'organiser, essayer de faire de telle sorte que la décharge de Kinshasa puisse effectivement développer un projet MDP qui pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mécanisme de développement propre qui fait que le gaz récupéré, que les déchets récupérés produisent du gaz méthane qui peut soit être transformé en électricité ou simplement être torché et en devenant du CO2, la nocivité de ce méthane est réduite. Et en tout cas, cela résulte par un actif carbone qui peut être revendu et qui à terme pourrait aider à financer la collecte des déchets. Donc il faut arriver à s'organiser, à créer ce genre de cycle vertueux pour essayer de profiter de certaines opportunités que apporte ce problème du climat et ne pas simplement se mettre dans une posture de victime.
Et on voit bien que dans la gestion de ces problèmes très très concrets, Céline Rammstein, les entreprises, elles aussi, vont avoir un rôle à jouer.
Oui, tout à fait. Je crois qu'on l'a assez bien clairement expliqué. Et puis sur votre antenne, vous avez exploré l'ensemble de ces aspects pendant ces deux semaines. Mais la COP21, l'enjeu finalement, c'était pas seulement d'avoir l'accord aujourd'hui. Là, on a l'accord, on est tous très contents. C'est vrai qu'il y a eu un effort énorme fourni par les équipes françaises, par l'ensemble des négociateurs, par l'ensemble des organisateurs, etc. Mais là, finalement, une grosse partie du travail commence seulement maintenant qu'on a cet accord qui nous fournit un cadre pour la révision, pour augmenter l'ambition. L'enjeu, c'est l'action. Et on a eu aussi beaucoup d'annonces d'entreprises. Vous l'avez mentionné, on a eu des annonces pour aussi aider les pays à s'adapter. On a eu des annonces pour l'innovation, pour la recherche et le développement, etc. Maintenant, l'enjeu, c'est d'accélérer l'action, je dirais, dès le lendemain de la COP, parce qu'il va falloir mettre en place les politiques publiques nécessaires. Il va falloir que les entreprises aussi changent un peu leur business model. Il va falloir que les assurances et les mécanismes financiers prennent en compte le risque climatique. Donc, il reste encore beaucoup à faire, mais l'accord qu'on vient de vivre aujourd'hui nous donne le cadre pour le faire et c'est pour ça que c'est si important.
Je voudrais qu'on entende à nouveau Annabella Rosenberg et Joseph Kogbe peut-être, parce que c'est vrai que depuis ce matin, il y a beaucoup de, on le sent évidemment, d'émotions à la tribune, de grands mots, de grands discours. Ce matin, Laurent Fabius parlait de développement résilient, faiblement émetteur, qui garantissent à la fois la sécurité alimentaire, la santé publique, les droits essentiels. Quel regard vous portez sur ce discours-là et qu'est-ce que vous attendez maintenant concrètement?
Mais finalement, le regard qu'on porte sur cet accord, c'est celui qu'on peut avoir sur tous les accords des Nations Unies, en fait. Ils ne deviennent vraiment intéressants quand ils sont quand même appliqués sur les terrains. Et ils ne se feront appliquer sur les terrains que s'il y a une véritable mobilisation sociale pour qu'ils s'effacent réalité. Et on entend les entreprises qui ont fait des promesses pendant ces deux semaines, et on entend les gouvernements qui se sont engagés pendant ces deux semaines, même bien au-delà de ce qu'il y a aujourd'hui dans les textes. Mais ça nous revient à nous, organisation syndicale, organisation de la société civile au sens large, faire en sorte que ces promesses ne tombent pas à l'eau. Et en tout cas, pour nous, il est clair que les entreprises devront marquer un cap, mais aussi dire comment vont arriver justement à devenir zéro émission, et notamment comment vont faire en sorte que l'emploi se transforme pour faire en sorte que les salariés qui sont aujourd'hui dans des filières à forte intensité carbone, l'énergie, l'industrie, se convertissent avec eux, en laissant personne sur les carreaux.
Oui, puis alors sans vouloir
avoir douché l'enthousiasme. Là, au moment où nous échangeons, il y a le Nicaragua qui s'exprime en salle plénière. Le Nicaragua qui n'est pas très favorable à cet accord. Alors, vous savez, aux Nations Unies, ça se passe au consensus. Donc, on ne vote pas. Hein. On n'appuie pas sur un petit boîtier pour dire « je suis d'accord ». Donc, il y a quand même quelques pays qui sont dans cette salle plénière qui... Bon, on a vu, Tosin Panupanu le signalait tout à l'heure, des applaudissements plutôt timides. Tout le monde n'est pas forcément d'un enthousiasme fou. Après, personne ne voulait porter la responsabilité de l'échec de cet accord. Donc, il y a des pays qui vont quand même à petits pas. Il va falloir voir ce qui va se passer entre mai 2016 et mai 2017, où les pays doivent envoyer à la Convention des Nations Unies sur le climat cet accord signé. Et donc, on va voir combien de pays le signent et après, combien vont le ratifier.
Peut-être un mot de Joseph Kogbe sur les réalisations concrètes que vous attendez maintenant. On a entendu Annabella Rosenberg. Vous, que diriez-vous là, ce soir, tout de suite?
Je pense que dans l'accord, si effectivement on dit qu'on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré, c'est qu'il faut se débarrasser des énergies fossiles. Et le document d'accord nous dit clairement que d'ici à 2050, il faut quand même aller vers la décarbonisation du monde. Et je crois que sur le terrain, ce qu'on doit faire au niveau de nos pays, par exemple en Afrique, c'est de se lancer dans le développement des énergies renouvelables et de la transition énergétique, donc, et l'efficacité énergétique. Je crois que ça offre, justement, cet accord offre un cadre pour pouvoir aller vers ces formes d'énergie-là. Mmh. Vous l'avez mentionné dans le discours de François Hollande, il a parlé de sécurité alimentaire, droits humains, la question de genre, mais qui finalement se retrouve simplement dans le préambule du texte. Mais nous croyons que c'est des principes clés sur lesquels donc on doit bâtir nos actions futures.
Est-ce que vous pensez que les chefs d'État africains vont se saisir de ce qui s'est dit aujourd'hui et vont s'associer à cet élan de Paris? Est-ce que vous avez confiance?
Absolument, parce que vous l'aurez constaté aussi à l'ouverture de la COP, ils s'étaient mobilisés tous et je crois que presque tous les chefs d'État africains ont parlé d'une seule et même voix, donc je suis très certain qu'ils vont se lancer dans la mise en œuvre de ce qui sera scellé ici à Paris.
Tosin Panupanu, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Joseph Kogbe?
Oui, tout à fait.
Il y aura un relais politique, est-ce qu'il vient de se décider aujourd'hui à Paris?
Il le faut, mais encore une fois, le rôle du État est révolu, il faut que toutes les parties prenantes nationales s'impliquent. Je pense que Pierre Adan tout à l'heure a parlé des maires. Si on nous dit que 60 à 70% des émissions proviennent des villes, donc des solutions se trouvent à travers les villes. Si jamais en Afrique subsaharienne, c'est le secteur privé qui génère 70% du PIB, qui génère 60% de l'emploi, il faut inviter le secteur privé également dans cette discussion. Donc il faut qu'on puisse trouver des solutions pour que tous nous puissions nous inscrire dans des modes de consommation et de production qui soient plus en adéquation avec une gestion responsable donc, du climat.
Anne-Cécile?
Oui, je crois qu'on l'a bien dit, hein, cet accord c'est le début d'une histoire, ce n'est pas une fin, il y a encore plein de choses qui sont absentes de cet accord. Hein. L'agriculture, on l'a dit, il y avait au départ un article pour taxer tout ce qui était transport aérien et transport maritime par exemple, ça a été enlevé, ça il va falloir le remettre sur la table, enfin il va y avoir beaucoup de travail encore entre cette année et d'ici la COP22 qui aura lieu à Marrakech l'année prochaine.
La question des forêts aussi, vous nous disiez tout à l'heure que c'était un des points relativement faibles dans l'accord de Paris.
Je pense que Tosin Panupanu de RDC maîtrise encore mieux le sujet que moi, mais c'est vrai que l'accord est très faible pour les forêts, alors que c'est un enjeu essentiel pour limiter les émissions de responsables, parce que quand on déforeste, on émet beaucoup de carbone, et puis aussi pour stocker ce carbone.
Aussi.
Oui, disons que la question des forêts est une question relativement mûre parce que le cadre de Varsovie, donc, qui a été adopté il y a 2 ans, règle beaucoup des questions qui portent sur la forêt, notamment les mesures de sauvegarde, le financement et d'autres choses. Et donc en fait, l'important ici, c'était de pouvoir ancrer cette question des forêts dans l'accord en sachant que beaucoup de dispositions techniques sont en fait déjà réglées.
Alors que la représentante de la Suisse prend la parole dans la salle plénière du Bourget. Pierre Radan, en guise de conclusion, tout commence aujourd'hui?
Oui, tout commence. Et je vais encore être lyrique.
Mais on aime ça.
Mais c'est la première fois de l'histoire humaine que les pays se disent tous ensemble, sans exception, qu'ils vont avancer vers un nouveau mode de développement. On n'a jamais eu ça. Alors bien sûr,
C'est vrai que les seules fois où tous les États étaient réunis, c'était au sein de l'OMC, par exemple. C'était pour parler commerce, c'est ça?
Non, l'OMC n'a que 161 pays. Il n'y a pas tous les pays de l'humanité dans l'OMC. Longtemps, les Nations Unies ont été paralysées par la guerre froide. Il y a eu Rio en 92, mais là, on est sur de la mise en œuvre, on est sur de l'avancée, on est sur le futur.
Merci en tout cas Pierre Radan, merci à tous nos invités d'avoir participé à cette émission. Tosil Panou, Joseph Kogbe, je vais y arriver tous les noms.
Annabella Rosenberg, Céline Rammstein.
Céline Rammstein, à la rédaction en chef Bruno Daroux, à la technique Marc Fichet ce soir. Merci également à Anne-Cécile Bras qui nous a aidé tout au long de cette COP à préparer ces émissions. Demain matin, nouvelle édition spéciale sur Radio France Internationale entre 8h et 9h. Ce sera en compagnie.